Alors, on va reprendre cette journée avec la deuxième session, donc et la première de cet après-midi, intitulée « Le chercheur punk sur son terrain ». Et nous aurons trois communications, celle de Sacha Thiébaud, celle de Manuel Roux et, pour finir, celle de Coralie Doua. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Sacha, qui est doctorant au laboratoire C3S, doctorant en STAPS et qui travaille sur le punk dans une région en particulier. Sacha, c'est à toi, tu as 20 minutes.
Merci beaucoup. Avant de débuter, je tiens à remercier l'équipe du PIND, et plus particulièrement Solveig Serre et Luc Robben, mais également Christophe Pécou, Laurent Grune, ainsi qu'Audrey Thuéan de Meusy pour l'organisation et pour m'offrir aujourd'hui l'opportunité de faire cette communication. Ma thèse a débuté le 1er novembre 2021 dans le cadre d'un contrat doctoral intitulé « Le punk en Bourgogne-Franche-Comté, une culture alternative et son territoire d'expression ». À partir d'une approche interactionniste, j'essaie de comprendre comment les membres font de la pratique musicale punk une activité corporelle dévoilant des imaginaires de la subversion. Pour ce faire, j'adopte une méthode socio-ethnographique avec une démarche qualitative et compréhensive mêlant entretien semi-directif ainsi que des observations participantes. Afin de réaliser mon ethnographie, je suis entré sur le terrain en exploitant deux voies d'accès. La première consiste à intégrer un groupe de punk en tant que guitariste, la seconde à se rendre sur les lieux d'expression de la culture punk régionale, bars, cafés-concerts et parfois les scènes de musique actuelle. J'ai postulé à des auditions de groupes s'autodésignant comme punk qui cherchaient un guitariste sur les réseaux sociaux. J'ai été retenu au sein du groupe Outrage, je l'ai intégré en tant que guitariste. Nous sommes quatre à constituer ce groupe de musique. Dams, le bassiste, Lars, le batteur, Joba, le guitariste-chanteur et moi-même, guitariste. Ce groupe se définit comme un groupe de punk hardcore défendant une posture politique antimilitariste. C'est en m'appuyant sur un corpus constitué d'observations ethnographiques effectuées lors de ma phase exploratoire à l'occasion de 23 répétitions et de 2 concerts au sein du groupe de punk hardcore Outrage que je souhaite aborder la problématique suivante. Comment mon expérience de terrain au sein du groupe Outrage a-t-elle modifié mon corps de guitariste et comment ce travail du corps de guitariste est-il devenu un outil de recherche me permettant de saisir différemment le monde punk? Tout d'abord, je montrerai comment le groupe de musique Outrage m'a confronté à mon propre corps de guitariste. Je montrerai dans un second temps comment cela m'a permis de m'ouvrir au monde sensible punk. Enfin, comment mon corps de guitariste m'a conduit à accéder à des temps de sociabilité entourant la pratique musicale punk. Les premières minutes de l'audition m'ont conduit à identifier les techniques corporelles valorisées au sein du groupe et à prendre conscience du travail corporel que j'allais devoir assumer pour être accepté au sein du groupe. La première partie de l'audition consiste à jouer les morceaux repris par la formation afin que les membres puissent juger de mes compétences à intégrer le collectif. Mon corps d'enquêteur s'est retrouvé enquêté. Je m'échauffe dans un coin du local du groupe. En répétant les morceaux, les membres me voient et m'annoncent qu'ils jouent leur composition beaucoup plus rapidement. Lars me fait remarquer que Joba double les allers-retours au médiator par rapport à moi. Il me dit que l'ancien guitariste que j'ai remplacé savait jouer avec une vitesse impressionnante. En concert, ils me disent qu'il joue encore plus rapidement. La confrontation de ma motricité de guitariste, gestes, techniques, ayant une incidence sur le son produit par l'instrument, aux conventions esthétiques du groupe, m'a permis d'identifier que la vitesse de jeu est une norme corporelle dont je devais m'emparer pour être accepté. Après un entraînement intensif, je parviens à reproduire le tempo extrêmement rapide auquel jouent les musiciens rencontrés. Pour atteindre cet objectif, je dois sortir de ma zone de confort technique et concentrer toute mon attention sur la motricité nécessaire pour exécuter les morceaux sans impair. Je reste concentré sur mes mains, mais j'oublie le reste de mon corps qui, lui, demeure immobile. Et cette immobilité corporelle a fait réagir les membres de mon terrain. Dams, le bassiste du groupe, est venu me voir lors de la répétition suivante en me disant que j'avais encore des progrès à faire. Surpris par cette remarque, puisque je pensais interpréter les morceaux fidèlement à ce qu'attendaient de moi les enquêtés, je lui ai demandé de développer les points sur lesquels je devais encore progresser. Dams me dit « Il faut que tu attaques plus. Pour l'instant, ce n'est pas assez, ça se ressent. Je dois augmenter la force à laquelle je gratte les cordes de ma guitare. » Joba a complété en m'invitant à relâcher mon poignet. Il m'a demandé de faire partir le mouvement de l'articulation du coude. Cherchant à rendre quelque chose aux membres du groupe qui ont accepté ma présence pour mon enquête, je m'investis corporellement et m'empare de cette nouvelle technique nécessaire apparemment pour jouer du punk hardcore.
Le travail de mon corps de guitariste est également un moyen de faire oublier ma posture d'enquêteur, bien conscient qu'elle produit des effets sur mon terrain. Étrangement, ce geste a une importance capitale pour ces musiciens, alors que je ne perçois aucune influence sur le son produit. C'est après ce constat des usages du corps effectués par les membres du groupe qui reviennent de manière incessante et qui font l'objet d'une attention particulière en répétition et en concert qui m'ont été rendus visibles. La direction et l'intentionnalité du regard, la proxémie, l'exposition de la sudation, les mouvements amples de l'avant-bras pour attaquer, les mouvements de tête réalisés de manière synchronique aux attaques du poignet, la voix criée, sont des usages du corps travaillés par les membres du groupe en répétition. Mes aventures passées de musicien dans des groupes de métal, se focalisant exclusivement sur la qualité, la justesse, la rigueur du son produit, m'avaient fait oublier que la musique pouvait se jouer par corps. Mais qu'est-ce que ces usages du corps racontent sur le groupe punk que j'ai, dans lequel je suis entré ? D'après David Le Breton, en 2006, le corps est une construction symbolique. Les acteurs livrent à l'adresse des autres un répertoire de gestes socialement codés. Ils sont amenés à être décodés au sein de l'interaction, notamment pendant le concert ou en répétition. Et je demande aux musiciens d'Ourage les raisons pour lesquelles ils mobilisent ces usages du corps. Les membres me répondent qu'ils permettent d'incarner ce qu'ils appellent une intention punk. Pour eux, cette intention punk illustre le message porté par le groupe. Cette mise à l'épreuve de mon corps de guitariste au sein d'Ourage me permet de comprendre que le musicien punk hardcoreux met en scène le sien pour exprimer, au même titre que les paroles, les valeurs portées par le groupe. Joba me rappelle ainsi que quand le corps s'efface, le riff n'est plus punk. Dams me dit « Tu vois, moi, dans un concert où le groupe ne bouge pas, reste sur place, je me fais chier, je ne vois pas l'intérêt, c'est plus du punk. » Mais ces corps, que cherchent-ils à exprimer ? Je cherche par ce truchement à identifier les valeurs symboliques exprimées dans ces corps et ce que cela nous apprend sur le message porté par le groupe. Encore en phase exploratoire, j'ai pu explorer quelques hypothèses qui seront naturellement appelées à évoluer. Les membres d'Ourage me demandent de regarder le public lorsque l'on joue et le regard a le pouvoir de construire une intimité immédiate. Lors des répétitions intenses en plein été, les membres du groupe n'essuient pas leur transpiration, elle ne fait l'objet d'aucun contrôle. Les autres félicitent même le membre qui transpire lors de la pratique musicale. Et pour Gilles Ravenot, la sueur peut devenir symbole de transgression et d'animalité. La voix doit impérativement être criée sur les compositions du groupe. Elle évoque pour eux parfois davantage que les paroles dont ils ont conscience qu'il est délicat de les comprendre et de les distinguer. Or, pour David Le Breton, lors du concert à la fête de la musique le 21 juin 2022, le chanteur est descendu de scène pour rejoindre le public en plein concert. Or, l'espace entre les membres est codifié, la proximité physique devient un signe de proximité relationnelle. Et ces usages du corps pourraient renvoyer un style de jeu au sens de Bromberger, révélateur d'une mentalité, la manière dont les membres se plaisent à raconter leur existence. Ainsi, me référant aux travaux de House en 2019 sur la sensation participante, proposant de traiter à la fois les sens comme objet d'étude et comme méthode d'enquête, j'ai choisi de m'appuyer sur mes affects corporels afin non plus d'écrire cette culture mais de la ressentir. La mise à l'épreuve de mon corps m'a tout d'abord permis de comprendre comment les membres façonnent le cadre de pratique musicale punk pour développer des sensations corporelles. Travailler mon corps d'apprenti guitariste punk hardcore, pour répondre aux conventions esthétiques du groupe, m'a d'abord conduit à m'observer avant d'observer les autres, porter mon attention sur mes mains avant celles des autres, sur mes gestes avant ceux des autres, sur mes déplacements avant ceux des autres, sur mon visage avant celui des autres. Porter mon attention sur mon corps m'a permis d'accéder à un corps interne, sensible, éprouvant l'expérience punk hardcoreuse et par ce biais à m'intéresser à celui des autres. Sa mise à l'épreuve au sein d'Ourage me conduit à éprouver des sensations que je n'avais jamais encore éprouvées dans les autres esthétiques musicales parcourues dans ma jeune carrière de musicien. À m'ouvrir aux affects corporels punk hardcore. Au nombre des affects, Françoise Héritier entend la sensation, la perception, l'attention, c'est-à-dire le ressenti de l'interaction du vivant avec son monde. Et l'interprétation de ces ressentis déclenche des émotions. En premier lieu, l'incitation à attaquer davantage, frotter plus fortement les cordes avec une amplitude gestuelle supérieure m'a conduit à éprouver une sensation de défoulement inédite en ayant cette impression étrange de trancher les cordes, les battre en leur infligeant frénétiquement des coups. Mon parcours de guitariste m'a ainsi permis d'éclairer des usages du corps profondément différents entre le punk hardcore et ses esthétiques musicales voisines telles que le métal, et ce sont ces différences qui m'ont conduit à ressentir de nouvelles sensations. Les membres m'ont également incité à procéder à quelques modifications technologiques de mon instrument, toujours dans l'objectif de développer ces sensations. En premier lieu, la modification récente de mon attaque m'a conduit à briser mes cordes lors de chacune des répétitions. Les membres m'ont alors incité à augmenter l'épaisseur de mes cordes. Joba a même rajouté « En plus, tu dois rien sentir, t'as pas l'impression de taper dans du chewing-gum ?» J'ai, depuis ce jour, modifié l'épaisseur de mes cordes. En second lieu, Joba a, lors de la 7e répétition, emprunté un de mes médiators qui traînait sur mon ampli pour jouer, car il ne retrouvait pas le sien. Il m'a demandé « Comment tu fais pour jouer avec ça? J'ai l'impression de gratter dans la semoule, je ne peux pas jouer avec ça, je n'aime pas, j'utilise des médiators plus épais. Tiens, teste, ça va te changer la vie », en me tendant un des siens. J'ai dès lors commencé à jouer avec un médiator plus épais. Et ces deux modifications technologiques qui m'ont paru de prime abord mineures sont devenues en réalité fondamentales dans mon expérience corporelle du punk hardcore. En premier lieu, elles autorisent à se relâcher davantage puisqu'avec elles s'évince l'appréhension de briser une corde et de disparaître physiquement du groupe. En second lieu, elles impliquent mécaniquement de devoir décupler les forces de frappe sur son instrument pour les faire vibrer. Ces paramètres matériels engendrent une expérience sensible de la pratique instrumentale particulière. Et cela, complété de l'amplitude du geste de l'attaque conjuguée à la fréquence nécessaire pour tenir le tempo, me conduit à ressentir un défoulement supérieur et une sensation de libération. Par ailleurs, il semblerait qu'en construisant leur composition, les membres pensent à et façonnent leurs usages corporels et les sensations qui en résultent. Les musiciens rencontrés font émerger au fil des riffs des contrastes de diverses natures. Contraste de saturation en passant d'un son clair à un son saturé, contraste rythmique lorsqu'une légère inspiration précède une attaque intensive. Systématiquement, après ces courts silences, le comportement corporel des membres se modifie. L'amplitude gestuelle est la plus élevée. Elle est systématiquement accompagnée dans une synchronicité exemplaire d'un coup de tête et d'une inclinaison du buste en avant. Ce n'est plus que la main qui attaque la corde, mais c'est le corps entier qui vient la fracturer et produire un son saturé, travaillé pour être rendu destructeur. Ces contrastes conjugués à ces mouvements que je reproduis par mimétisme, pris dans ces réseaux d'interaction au sein du groupe, accroissent mes sensations corporelles. À celles-ci, j'associe des émotions de libération et de défoulement, de destruction. Ces usages du corps qui m'étaient de prime abord imposés, je les ai fait miens dès le moment où j'ai éprouvé ces nouveaux affects. Je les reproduis systématiquement aujourd'hui, précédant parfois les hardcoreux rencontrés. Bien conscient d'être tiraillé entre le devoir de répondre à ce que je présume être leurs attentes pour perdurer sur mon terrain, puisque la relation ethnographique n'est jamais acquise, et cette quête de sensations appréciables qui me permettent de vivre mon ethnographie comme un exutoire. Mais qu'est-ce que mes ressentis me racontent sur le groupe ? Pour Howard Baker, les sensations sont porteuses de significations, elles-mêmes apprises socialement. Les conversations au sein du groupe m'ont conduit à comprendre que ce que je ressentais dans mon coin se rapprochait à certains égards de ce que les musiciens d'Aurage me disaient ressentir. Ces ressentis, il semblerait que je les ai construits au sein du groupe, puisque en réalisant cette gestuelle avant, je ne ressentais pas la même chose. Ils interprètent, eux, ces sensations comme libératrices. Ils vivent la pratique musicale punk également comme un véritable exutoire dans lequel ils peuvent relâcher les contraintes qui pèsent sur eux dans leur vie quotidienne. Ils développent dans le même mouvement un sentiment de puissance. Comme l'illustre Joba, tu grattes ta corde, t'as 100 watts qui t'arrivent dans la gueule, tu te sens puissant. Les membres attaquent de tout leur corps et cette attaque n'est pas sans conséquence. Elle produit un son perçu comme étant lui-même puissant. Comme le démontre Georges Vigarello en 2019, en prenant l'exemple de la sensation de fatigue, le contexte dans lequel l'acteur ressent devient un facteur déterminant la signification de ses sensations, le sentiment de soi. Ainsi, le sens que le musicien donne à sa pratique musicale du punk au sein d'un groupe prônant l'antimilitarisme le conduit-il à développer un sentiment de puissance éprouvé à l'encontre du système militaire ? Ce sentiment de puissance est-il décuplé lors des concerts et selon les lieux d'expression du local à la scène ? Enfin, entrer dans le groupe en tant que membre guitariste m'a permis, au fil des répétitions, d'accéder à des temps de sociabilité hors cadre musical. Ces temps de convivialité sont l'occasion pour moi d'entrevoir d'autres usages du corps de ces musiciens au repos qu'on ne pourrait saisir en restant uniquement dans la posture du spectateur. Lorsque la pratique musicale s'arrête, disparaît alors mon corps de guitariste punk hardcoreux qui ne peut exister que dans le moment musical. Je dois alors faire oublier la présence ravivée de l'enquêteur, puisque elle seule produit des effets et dénature les comportements des membres. Dès lors, je ne peux poser de questions au risque de faire réapparaître un effet interrogatoire et de rompre avec le caractère amical et fortuit de l'instant. Poser des questions est interprété comme un retrait délibéré du groupe, parfois comme une trahison. La sincérité de mon investissement émotionnel s'efface au profit du dévoilement d'une posture académique institutionnelle. Ainsi, je mobilise les discussions pour en faire une forme masquée d'entretien au sein desquels l'enquêteur n'a aucun contrôle. Je deviens un voyeur, un écouteur des dialogues des membres entre eux, en prenant les données dans l'ordre dans lequel elles m'apparaissent. Ce n'est qu'au prix de cette posture ethnographique silencieuse que je peux observer bien des comportements et des discussions qui ne sont saisissables qu'au terme d'une patiente observation. Le moment précédent et succédant à la pratique musicale permet de comprendre le sens que les membres donnent à leur pratique musicale du punk hardcore. En effet, les comportements quotidiens des acteurs locaux peuvent avoir autant de pertinence que les rituels ou les spectacles plus ou moins élaborés qui se donnent explicitement à voir. Pré-Olivier de Sardan. Ainsi, le sens que la pratique musicale du punk a pour les membres prend naissance dans un contexte de vie qu'il convient de décrypter à ces occasions. Il relate lors de ces moments les coups durs de la journée, le rapport avec leur supérieur hiérarchique, leur vie familiale, donnent à voir les traits de fatigue, de colère, de joie, lorsqu'ils quittent leur quotidien et pénètrent le local de répétition. Ils définissent ce moment punk comme un détachement de ces contraintes quotidiennes permis par ces sentiments de puissance et de libération. Comme le dit Dams, ça fait du bien après cette journée de merde à l'issue d'une répétition. En conclusion, je souhaiterais rappeler que bien que le travail de mon corps de guitariste m'ait permis d'être accepté au sein du groupe, de saisir le sens expressif d'une motricité punk hardcoreuse et de m'ouvrir au monde sensible d'Outrage, en cela de saisir la dimension corporelle de la pratique instrumentale du punk hardcore, cet outil présente des limites et situe forcément mon regard. En premier lieu, ressentir cette culture a ses limites. Le corps du batteur demeure énigmatique, puisque je n'ai qu'une connaissance superficielle des techniques nécessaires pour jouer de la batterie. Et n'ayant jamais pratiqué cet instrument, je ne peux me rendre compte des sensations corporelles que procurent ces usages du corps, éminemment différents de ceux du guitariste, évidemment. En ce qui concerne le bassiste, je parviens à voir les modifications d'attaque lorsqu'il joue avec le médiator, puisque le mouvement est semblable à celui du guitariste, mais la distance se creuse entre son corps et le mien lorsqu'il mobilise le jeu au doigt ou le slap, technique que je ne sais réaliser. Ainsi, je pose cette question, quelles sont les limites de la subjectivité du chercheur pour rendre compte d'une expérience sensible partagée au sein du groupe et en concert avec le public ? Je vous remercie pour votre attention.
Merci Sacha pour cette communication menée avec entrain. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Alors moi j'ai juste une petite question. C'est, quel était ton background musical avant d'avoir rejoint le groupe ? As-tu dû effectuer des changements immenses comparé à ce que tu écoutais, ce que tu jouais avant d'entrer dans le groupe ?
Moi en termes d'itinéraire musical, j'ai pratiqué essentiellement la musique dans des groupes de metalcore et de thrash metal aussi. Et en fait, ce sont des usages corporels qui diffèrent totalement, puisque dans le metal, on va se focaliser sur la restitution sonore, sur la rigueur technique, et moins finalement sur ce que le corps peut exprimer en dehors du jeu instrumental. Et en cela, j'ai dû travailler une motricité non usuel du coup qui dépasse la technique musicale.
Même en termes de metalcore, pour moi le metalcore c'est quand même un style qui se joue assez vite, plus dans le terme virtuosité comparé au hardcore. Et tu semblais être surpris par la vitesse. Il y a vraiment une différence immense entre ces deux styles.
Dans mon groupe de metalcore, j'étais soliste, je faisais le lead, on joue plus vite dans ce groupe de punk hardcore, alors que là je suis guitariste rythmique. Donc c'est des usages qui sont totalement différents. Et en fait, dans le metalcore, on tient souvent la note et on reste souvent sur la même note. Et c'est du coup la modification de la rythmique qui produit aussi la mélodie. Alors que là, du coup, j'ai dû effectivement travailler la vitesse, et notamment la vitesse du déplacement des doigts sur le manche, peut-être plus que celle de la main droite.
Merci beaucoup pour ta com. Justement, tu mobilises Vigarello, ça me renvoie aussi à ses travaux sur l'histoire des techniques corporelles de 88. où il parle aussi de la technologie, d'ailleurs, ce que tu as fait avec, avec le médiator et les cordes. Simplement, est-ce que tu peux revenir sur l'entraînement qu'il t'a fallu? Est-ce que, alors malgré ton corps juvénile, hein, par rapport au mien par exemple, c'est avéré, est-ce que tu as eu des ressentis physiologiques du style ça fatigue le bras, j'ai des crampes dans l'avant-bras, ce genre de choses, quand tu as travaillé justement ta remise à niveau par rapport à la vitesse et puis aux modalités d'exécution?
Merci beaucoup pour cette question. La modification de la vitesse d'exécution m'a conduit justement à décupler les frottements des cordes sur mes doigts et à être brûlé aussi au niveau des doigts, parce qu'en plus ça faisait 2 ans que j'avais pas eu de groupe, du coup j'ai dû accepter cette douleur pour rentrer dans le groupe Arrowedge, parce que la corne pousse avec le temps et du coup elle était pas là au début de mon intégration. En ce qui concerne l'entraînement, en fait, à mesure que le groupe progressait, que j'apprenais les compositions et que la setlist se prolongeait, j'ai dû aussi, en dehors du cadre musical, me remettre à pratiquer l'activité physique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais courir alors qu'avant, je ne le faisais pas, parce que en plus, on commence les concerts et que globalement, ça commence à être un petit peu éprouvant. Et notamment le poids de la guitare, en fait, qui est assez contraignant à mesure que le temps de jeu, notamment au moment du concert en fait, parce qu'en répétition on n'a pas forcément besoin de dévoiler cette symbolique corporelle qui peut être décodée comme étant transgressive, alors qu'en concert on doit mettre en scène son corps, et cette mise en scène du corps pour porter un certain discours conduit à un engagement physique supérieur et donc induit à un entraînement derrière bien spécifique.
Merci Sacha pour cette présentation. Alors, 2 petites questions. Pour faire le lien justement entre culture punk, culture sportive, tu as parlé de la répétition. Et est-ce qu'on peut comparer justement la répétition et l'entraînement sportif? C'est-à-dire que tu parles de la répétition et on te dit faut que tu bouges plus, faut que tu... Bon, c'est une répétition, hein, t'es pas en concert. Hein. Alors quand on s'entraîne, pour avoir pratiqué le sport pendant de longues années, bah, l'entraînement, souvent, c'est un moment où tu vas préparer la compétition, enfin le match. Donc est-ce qu'on peut comparer ces 2 temps entre une répétition qui va peut-être préparer un concert, etc. Est-ce qu'il faut vraiment être tout de suite dans l'action? On te dit tu bouges pas assez, tu n'attaques pas assez. Comme dans un entraînement sportif, on dit il faut s'entraîner comme on va jouer le week-end, par exemple. D'accord? Est-ce que toi, tu peux y voir des... Je ne sais pas si tu as été sportif ou pas. Et 2e question, justement, pour rebondir sur ce que disait Lolo, sur la question de la répétition, combien de temps dure votre répétition? Parce que si c'est une répétition qui dure 4 heures ou 2 heures, comment on gère aussi, hein, c'est la question de l'entretien et de la gestion des capacités physiques et motrices. Comment toi, tu gères avant d'arriver sur justement des... problèmes de crampes, de mal de doigts, etc., des doigts qui brûlent. Voilà.
Merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, plus le groupe avance et plus on commence à se diffuser et aller sur scène, et plus l'entraînement devient sportif, alors que de prime abord, il était plus physique. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une codification des usages du corps où on recherche une efficacité. Une efficacité corporelle, et plus du coup on développe des techniques corporelles, plus on se concentre sur ses mains et plus on oublie derrière aussi les sensations, parce que la maîtrise technique permet d'oublier aussi son corps pour ressentir derrière, et donc on avance vers un entraînement sportif dans le sens où on essaye d'assimiler, d'apprendre, enfin j'essaye d'apprendre une codification des usages du corps bien spécifique à ce groupe et au punk hardcore.
En termes de préparation à la préparation au concert ou préparation au match.
Le contexte dans lequel va se dérouler le concert détermine les entraînements qui précèdent le concert. C'est-à-dire que globalement, on ne va pas forcément jouer de la même manière selon la scène, et du coup, on ne va pas non plus proposer la même setlist, et donc on ne va pas travailler l'enchaînement des compositions de la même manière. Au niveau du temps de répétition, les répétitions se déroulent habituellement le samedi après-midi, elles durent à peu près 4-5 heures. En fait, c'est intéressant parce qu'elles sont systématiquement stoppées par le leader du groupe, qui est le chanteur-guitariste, qui finalement est égosillé, n'a plus de voix et ne peut plus continuer à chanter. Alors, à savoir que cette mise à l'épreuve de son corps, parce que le corps de chacun, à mesure que l'expérience du groupe progresse, est systématiquement remis à l'épreuve. Et il a développé des techniques d'échauffement qu'il ne faisait pas forcément au début, notamment, donc il sort parfois du local de répétition et il va faire des vocalises dans le garage adjacent avant de revenir. Il a aussi des poignées
pour muscler les muscles des doigts. Il le faisait systématiquement avant les répétitions. Depuis un temps, il ne le fait plus parce que c'est contraignant. Et justement, c'est ce rapport un peu techniciste aussi à la musique.
Merci pour si je peux me permettre juste de... Pour
rapidement, Manu, par contre.
Hein, très rapidement, pour répondre à ta question aussi, de deux groupes qui avaient du coup la plus jeune et du coup un peu plus expérimentée avec les tournées. En tant que chanteur, guitariste, j'ai arrêté de fumer parce que j'arrivais pas au niveau du souffle à gérer les sets. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait deux différentes répétitions. Il y avait la répétition de composition, vu qu'on composait dans le local. Il y avait plus longue, et la répétition pour la tournée. Et qui, du coup, là, c'était... on faisait trois sets, tu vois. On jouait 25 minutes, 30 minutes. On enchaînait à balle. On le faisait trois fois, ça. Jusqu'à le fait que j'ai plus de voix et que c'est effectivement, comme tu disais, par rapport au chanteur. Donc, c'est pas mal.
Merci beaucoup, Sacha, pour ton intervention.
Merci à vous.